VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Nouakchott, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, un protestataire tué et deux blessés par la police aujourd'hui, selon l'AFP, lors de nouvelles manifestations contre un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza dans les quartiers contestataires de Bujumbura, la capitale. Pour sa part, le chef de l'État a déclaré hier que la sécurité règne dans la quasi-totalité du pays. Anne Albertson.
S'adressant à la nation pour la troisième fois depuis l'échec du coup d'État le 13 mai, Pierre Nkurunziza a assuré que la paix et la sécurité règnent sur 99,9% du territoire burundais. Ce qu'il qualifie d'insurrection ne toucherait que quatre quartiers de Bujumbura. Il a aussi mis en garde la presse. Pour l'opposition et la société civile, le report des élections législatives et communales au 5 juin ne change rien et les deux groupes entendent continuer à manifester contre le troisième mandat. Plusieurs quartiers de Bujumbura sont, depuis le 26 avril, le théâtre d'un vaste mouvement de contestation. Les violences quotidiennes ont fait plus d'une vingtaine de morts au Burundi.
Suite aux violences et aux coups d'État manqués, le gouvernement burundais a décidé de reporter d'une semaine jusqu'au 5 juin les élections législatives et communales. La campagne électorale est donc prolongée jusqu'au 2 juin. Mais en l'absence de médias indépendants et vu la tension sur place, cela est-il réaliste ? Idriss Fall a posé la question à Pacifique Ninina Azoué du collectif contre un troisième mandat à Bujumbura.
Le report est une bonne chose parce que c'était irréaliste de penser qu'on aurait des élections la semaine prochaine. C'est irréaliste d'autant plus que les partis de l'opposition ne font pas campagne, il n'y a pas de sécurité pour les leaders de l'opposition et le CNDD est le seul pratiquement à faire campagne à ce moment. Ce serait irréaliste s'il avait maintenu le calendrier actuel.
Le report d'une semaine, vous pensez que cela suffira?
Cela ne suffit pas non plus parce qu'il faut d'abord qu'il y ait un dialogue entre les différents partenaires intéressés par ces élections. Est-ce que dans une semaine, l'opposition pourra organiser sa campagne? Est-ce que dans une semaine, le gouvernement pourra trouver les fonds pour financer ces élections du moment que certains partenaires ont décidé de ne plus continuer à financer ce processus électoral? Donc, je trouve que tout cela est irréaliste. Il est important qu'il y ait d'abord un débat sur les défis d'aujourd'hui, sur les questions qui se posent en ce moment.
Presque toutes les radios privées ne peuvent plus émettre. Donc, comment va se dérouler la campagne?
C'était incroyable qu'on puisse faire une campagne lorsqu'il n'y a pas de débat sur des médias indépendants, libres, lorsqu'il n'y a que la seule radio officielle du gouvernement qui ne fait que diffuser les messages du président Nkurunziza. C'est inconcevable et incroyable qu'on passe à une élection dans cette situation pour que les conditions sécuritaires ne le permettent pas en ce moment.
Pacifique Ninina Azoué du Forum de la société civile à Bujumbura. Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée, le chef de l'opposition, Selou Daline Diallo, ne cache pas sa déception après sa rencontre d'hier avec le président Alpha Condé. Salwa Jafari nous dit pourquoi.
C'est moi seul qui ai parlé, j'ai été déçu qu'on n'ait pas d'échange, je m'attendais à mieux que ça, a déclaré le chef de l'opposition, Selou Daline Diallo, à sa sortie. Alpha Condé m'a dit « Je suis là pour t'écouter, je vais confronter tes propositions et observations à celles de la mouvance et moi, en tant que président de la République, au-dessus de la mêlée, je prendrai une décision. » Au cœur de la discorde, la tenue des élections. Le président Condé insiste sur la tenue des élections présidentielles en octobre, avant la tenue des élections locales. L'opposition, de son côté, dénonce ce qu'elle décrit de ruse. Elle réclame la tenue des communales prévues en mars 2016, avant l'élection présidentielle, par crainte que le personnel communal, nommé par le pouvoir, n'influence le scrutin en faveur du régime en place.
La guerre contre Boko Haram au Nigeria, près de 500 officiers et soldats sont jugés pour indiscipline, quelques mois après la condamnation à mort de 66 militaires accusés de mutinerie, Bagasikoura.
Le porte-parole de l'armée nigériane, Sani Ousmane, n'a pas précisé les charges retenues contre 473 soldats traduits devant une cour martiale. Il a simplement déclaré que l'accent est mis sur la discipline et le professionnalisme. Un de leurs avocats, Maître Femi Falana, affirme que certains sont accusés de mutinerie, d'autres de lâcheté et désobéissance. Maître Falana avait défendu 54 soldats condamnés à mort en décembre et 12 autres en septembre. Le haut commandement militaire n'a pas encore donné son feu vert pour que ces soldats soient passés devant le peloton d'exécution. L'année dernière, des soldats postés à Maïdougouri avaient refusé d'aller combattre les islamistes, mettant en avant leur manque d'équipement. Leurs épouses avaient même organisé une manifestation devant une caserne pour dénoncer l'utilisation de leur mari comme chair à canon face à des insurgés mieux armés.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Surprise au Parlement de la CDAO à Accra, au Ghana. L'un des nouveaux législateurs n'est autre que Prince Johnson, ex-seigneur de la guerre pendant le long conflit au Libéria dans les années 1990. Maintenant sénateur de son pays, Johnson est surtout connu dans la région pour les nombreuses atrocités dont il s'est rendu coupable en Afrique de l'Ouest pendant les années de guerre. Il avait notamment torturé à mort l'ancien président libérien Samuel Doe. Pour une réaction à son entrée au Parlement communautaire, Bagassi Koura a joint Alioune Tine d'Amnesty International à Dakar.
Pour ceux quand même qui ont suivi le conflit armé entre 89 et 2003, où il y a eu près de 250 000 morts, mais sa responsabilité en tant que chef de guerre a été engagée, et je dirais lourdement engagée, tout le monde le sait. Engagée également sa responsabilité dans la mort atroce de Samuel Doué. Et on n'a pas fini. Même dans l'assassinat de Thomas Sankara, on a cité son nom. Alors, très sincèrement, c'est quand même un très mauvais signal qu'on envoie aux citoyens ouest-africains avec son élection à la CDAO. Et ça va être très certainement un coup sérieux porté à la crédibilité de cette institution.
Et même s'il s'est converti à la démocratie et qu'il a déposé les armes depuis.
Même s'il s'est converti à la démocratie et même à la chrétienté, hein, sa conversion est bien opportuniste. En réalité, au lieu qu'il soit jugé par les États, parce que c'est ça qu'on attend des États de la CDAO. Maintenant, il est parlementaire. Ça ne doit pas être flatteur pour ses autres collègues.
Alors, s'il a pu commettre tous ces crimes, comment est-ce qu'il se retrouve là? Est-ce qu'il a bénéficié de l'amnistie?
Mais écoutez, c'est un peu une façon de blanchir les anciens criminels de guerre, hein, parce que c'est un tout petit peu un chantage à la paix, à la stabilité.
Alioune Tine d'Amnesty International à Dakar, au micro de Bagassi Koura. Forte hausse des cas d'Ebola la semaine dernière en Guinée et en Sierra Leone, selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé. Des précisions avec Claire Morin-Gibour.
35 nouveaux cas ont été rapportés la semaine dernière en Guinée et en Sierra Leone, contre 9 seulement au cours de la semaine précédente. C'est la plus forte hausse depuis plus d'un mois. La Guinée, où l'épidémie a débuté fin 2013, a été la plus durement touchée la semaine dernière, avec 27 cas rapportés contre 7 la semaine précédente. Si le Libéria voisin a été déclaré exempt de la maladie le 9 mai dernier, ce n'est pas le cas de la Sierra Leone qui a déclaré 8 nouveaux cas. Et pour la première fois en 5 semaines, un professionnel de la santé qui travaillait dans un centre de traitement d'Ebola près de Freetown a été déclaré positif au virus de la fièvre hémorragique.
Actualité américaine, l'administration Obama a publié hier plusieurs documents trouvés lors du raid de 2011 au Pakistan, au cours duquel les forces américaines ont tué le leader d'Al-Qaïda, Osama Bin Laden. Les détails avec Eddie Isango.
Parmi les documents déclassifiés, du courrier personnel adressé aux membres de la famille Bin Laden, une liste des livres en anglais retrouvés dans la parcelle, diverses études, des programmes d'ordinateurs et autres manuels techniques et des documents d'autres groupes militants. Les 5 dernières années de sa vie, Bin Laden était hanté par une appréhension au sujet de la technologie avancée utilisée pour les traquer. Il avait donné à sa famille des instructions détaillées sur comment éviter de donner aux agents américains des pistes qui pouvaient conduire jusqu'à lui.
Le président Barack Obama reçoit son homologue tunisien Beji Caïd Essebsi aujourd'hui à la Maison-Blanche. Au programme de leur discussion, une possible augmentation de l'aide militaire et économique des États-Unis à la Tunisie qui fait face à l'instabilité dans sa région et à un fort chômage des jeunes. Dans un commentaire conjoint publié aujourd'hui dans le quotidien Washington Post, Barack Obama et Beji Caïd Essebsi déclarent que la Tunisie prouve que la démocratie est non seulement possible, mais nécessaire en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et pour terminer, en Syrie, l'État islamique occupe maintenant la ville antique de Palmyre après avoir chassé les troupes gouvernementales du secteur hier soir. L'État islamique contrôle désormais plus de la moitié du territoire syrien.
Soyez au cœur de l'info.